Il est 18h sur Radio Campus Paris, tout de suite c'est l'heure de Déshabiller-moi.
Qu'est-ce que tu pourrais reprocher à ton prof de philosophie de terminale ?
Pas grand-chose, parce que peut-être de ne pas avoir été là plus tôt.
Comme beaucoup de profs de philosophie de terminale, d'avoir été beaucoup trop dans les bouquins et peu dans l'explication réelle de ce que dit la philosophie.
Elle faisait beaucoup participer, elle écrivait très peu. On participait beaucoup à l'oral et essayer de créer vraiment quelque chose dans la classe.
De ne pas être adapté à la logique et à la vision de la philosophie de l'étudiant du lycée. Je pense que l'étudiant de terminale, quand il débarque en classe, il a une vision de la philosophie qui est erronée, on l'apprend après. Il imagine la philosophie comme un espace où du jour au lendemain, il va pouvoir s'exprimer librement, réfléchir, penser, se questionner l'environnement qui l'entoure. Et en réalité, il se rend compte que la philosophie, c'est le pendant des mathématiques. C'est-à-dire qu'on n'attend pas du tout de lui qu'il réfléchisse, on attend juste qu'il réalise une opération. C'est la désillusion la plus terrible de l'étudiant de terminale.
Qu'est-ce que tu aurais aimé apprendre en philosophie, que tu n'as pas appris ?
On survole un peu tout, je trouve, en philosophie. En terminale, et j'aurais voulu avoir des bases plus solides.
Qu'elle nous parle de la vraie vie. Que c'est bien d'apprendre Platon et Rousseau, mais que ce soit comparé à la vraie vie, avec des vraies expériences et les vrais cons qu'on rencontre. Là, c'était par rapport à des vieux cons qui sont couchés sur du papier.
J'aurais aimé rien apprendre, justement. C'est mon grand regret, c'est qu'on a voulu me faire apprendre des choses en philosophie. On a voulu me dire, apprends par cœur la théorie de Rousseau. On a voulu me faire apprendre par cœur la théorie d'Antel. On a voulu me faire apprendre par cœur que Voltaire pensait ça sur le monde. Moi, j'avais pas du tout envie d'apprendre par cœur des choses. C'est ce que je faisais dans tous les autres cours. J'avais envie qu'on me permette de m'exprimer librement, c'est-à-dire de ne rien apprendre, mais moi, de faire apprendre potentiellement quelque chose à la personne qui me soumettait une problématique.
Comment toi, tu enseignerais la philosophie si tu étais professeur de philo ?
Un peu de spontanéité et pas trop les bombarder les élèves de références.
Déjà, je ferais cours dehors, dans la rue. Et je sais pas, je mettrais peut-être un petit peu plus de regarder un peu plus de choses contemporaines, de films, de musique, de livres, de choses qui sont récentes, et essayer de les faire parler un petit peu plus aussi. Moins digérer et avaler et gober des textes, et plus discuter.
Je trouve que l'idée de créer un vrai dialogue et de se dire que peut-être que c'est une classe qui doit dépasser sa matière et faire sortir le meilleur de ses élèves.
Si je l'enseignais aujourd'hui dans un cadre qui serait tout à fait différent, j'imaginerais plein de jeux pour stimuler la créativité des étudiants ou des élèves de terminale, pour stimuler leur intérêt vers l'autre, leur intérêt à se questionner sur l'autre, leur intérêt à ne pas se fixer de limites dans la pensée, pour ne pas avoir une réflexion bridée, une réflexion auto-centré sur la connaissance et non pas justement sur l'évasion et la créativité.
Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez me convoiter, me désirer, me captiver.
Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans Déshabillez-moi, le striptease philosophique de Radio Campus Paris. Quel souvenir vous reste-t-il de vos cours de philosophie de terminale ? Que pourriez-vous reprocher à votre professeur de l'époque ? Ce sont les questions que nous avons posées à quelques bénévoles de Radio Campus Paris qui ont en commun le fait de ne pas avoir persévéré dans leur apprentissage de la philosophie. Désillusion, plaisir, interaction, bon prof, mauvais prof, trop de livres et de concepts, pas assez de liberté, autant de réponses possibles. Mais ce qui est certain, c'est que l'enseignement de la philosophie semble être marquant.
en bien ou en mal, mais il marque l'apprentissage de chacun parce qu'il perturbe une certaine manière de réfléchir ou justement parce qu'il n'y parvient pas contre toute attente. En France, l'enseignement de la philosophie n'occupe pourtant qu'une place secondaire au lycée. La reine des matières ouvre le bal du baccalauréat, mais n'est transmise aux étudiants que pendant une toute petite année. 10 mois pour acquérir concepts et clés qui devraient permettre aux élèves de réfléchir sur le monde qui les entoure. Oui, parce que le philosophe, même en herbe, doit passer par un apprentissage long et difficile de l'histoire des idées pour parvenir à construire une réflexion libre, tout comme le musicien ne peut composer ou improviser la musique sans connaître ses gammes. Comment alors, en si peu de temps, offrir aux élèves les clés pour une réflexion libre ? Comment leur apprendre à réfléchir ? La philosophie, en tant qu'elle offre une arme réflexive sur le monde, se doit d'être influencée par une interrogation large sur la manière dont elle doit être enseignée aux élèves. Quelle est alors la place de l'enseignant de philosophie ? Comment peut-il remplir cette si haute responsabilité ? Comment combattre la désillusion auxquelles peuvent conduire les quelques premiers mois de pratique de la philosophie et donner aux jeunes et aux autres les clés pour une réflexion libre ? Comment doit-on enseigner la philosophie ? Peut-on l'enseigner autrement qu'à l'aide des grimoires qui ont contribué à la fabrication de l'histoire de la philosophie? C'est à toutes ces questions et bien d'autres que nous essaierons de répondre avec nos deux invités ce soir. Alors, est-ce qu'on les présente ce soir, Anaïs, nos deux invités?
C'est notre grand questionnement, je ne sais pas.
Eh bien, allons-y. N'ayons pas peur, allons-y. Ce soir, nous accueillons Bastien Sueur, qui est formateur auprès des enseignants de philosophie dans l'Académie de Versailles et enseignant dans le micro-lycée Kassler à Cergy, et Guillaume Lequien, enseignant de philosophie dans un lycée très calme du sud de l'Essonne, nous dit-il. Tous les deux sont membres d'un collectif de réflexion pédagogique sur l'enseignement de la philosophie qui se nomme Enseigner la philosophie autrement et ont contribué à l'ouvrage collectif dirigé par Hugo Clément, Enseigner la philosophie avec le cinéma, qui sortira à la fin du mois. Tout ça. Bonsoir à tous.
Bonsoir.
Et bonsoir Anaïs.
Bonsoir Mélanie.
Et bien, je vais te laisser, Anaïs, tout de suite introduire notre entretien.
Alors, on va commencer parce qu'on a déjà entendu un certain nombre de personnes nous parler de leur expérience de la philosophie, de leur enseignement de la philosophie au lycée et du prof qu'ils auraient voulu éventuellement être s'ils avaient poursuivi dans cette voie. Quelle réaction ce reportage vous inspire ?
Alors, moi je trouve ce témoignage très intéressant parce que il montre que l'enseignement de la philosophie suscite beaucoup de curiosité, beaucoup de désir d'autre chose, de désir de quelque chose de différent, et en même temps aussi beaucoup d'appréhension, de crainte sur ce que sera cet enseignement. C'est vrai qu'il introduit une espèce de rupture, dans la mesure où il est enseigné qu'une année à la fin du cursus scolaire, et que le professeur de philosophie se sent un peu responsable de l'idée que ses élèves se feront toute leur vie de cet enseignement. Donc c'est vrai que c'est une forte responsabilité. Maintenant, je pourrais aussi rajouter que par rapport aux témoignages qu'on a entendus, beaucoup de diversité, évidemment, beaucoup d'ambivalence sur les impressions des uns des autres. Je crois qu'il y a une demande très très forte de quelque chose d'autre, de quelque chose de différent, de quelque chose qui sorte d'une espèce de routine scolaire. Et parfois, cette attente peut-être est parfois ou trop souvent déçue. Donc il faudrait peut-être s'interroger sur les motifs de cette déception.
Comment on ferait ? On poserait la question aux étudiants de terminale. On pourrait faire un panel représentatif des étudiants, savoir ce qu'ils attendent.
J'ai pour habitude depuis quelques années de poser la question franchement à mes élèves, tout premier cours, au lieu de leur faire remplir des fiches pour savoir ce qu'ils sont, leurs loisirs et le métier de leurs parents. Je leur demande, qu'attendez-vous de ce cours de philosophie ? Et on obtient toutes sortes de réponses. La plupart sont relativement décevantes, en fait, parce que ce qu'ils attendent pour beaucoup, c'est tout simplement de les préparer à l'épreuve du bac.
D'accord.
Mais c'est notre obligation de les préparer à l'épreuve du bac, bien sûr. J'ai eu une fois une réponse que j'ai trouvée intéressante d'un élève qui m'a répondu tout simplement « J'attends de l'inattendu ». Alors évidemment, ça met beaucoup de pression.
Est-ce que c'est pas un problème justement qu'on enseigne la philosophie qu'en terminale ? Parce que du coup l'enseignement de la philosophie n'est jamais désolidarisé de la question du bac. Donc est-ce que vous seriez pour un enseignement de la philosophie qui soit réparti sur plusieurs années dans l'enseignement ?
Oui, sans la moindre hésitation, oui.
On est pris au piège justement parce que la philosophie n'a lieu que sur une seule année. On est là sur 10 mois, effectivement, comme vous l'avez dit, pour étudier quasiment toute la réalité, en fait.
Mais c'est ça, c'est énorme.
Étudier toute l'histoire des idées, si jamais on le fait, c'est-à-dire 20 siècles de pensée, c'est une tâche incommensurable avec la pression du bac, avec la pression de la note au bac. Ce qui fait que c'est quasiment infaisable. Et donc chaque prof essaye de faire cette expérience de quelque chose de totalement infaisable chaque année. Si on avait la chance, et ça a lieu dans certaines expériences, hein, si on avait la chance de pouvoir la faire sur plusieurs années, à partir de la seconde, de la première, et pourquoi pas même avant, on dédramatiserait beaucoup de choses.
Mais il y a quand même pas mal de choses pour les enfants, des outils un peu pédagogiques, des petits bouquins sur la philosophie, où on peut commencer déjà à aborder certaines notions. Bon, après, c'est la charge des parents, donc c'est un peu différent. Est-ce qu'il y a aussi d'autres choses qui permettent justement aux enfants et aux plus jeunes d'entrer un peu déjà dans la réflexion philosophique ou pas du tout ?
Y en a, mais le problème, c'est que le chantier n'est pas encore fait du tout. Le problème, c'est qu'il y a une représentation qui consiste à dire qu'il y a la philosophie, la vraie philosophie qui se fait en terminale et à l'université, et ensuite il y a la fausse philosophie qui se ferait avant éventuellement. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait avec des élèves de maternelle, des élèves de primaire, ne serait jamais de la philosophie. C'est on leur demande au mieux leur opinion, on leur demande au mieux simplement de réagir, de poser quelques problèmes, mais pas plus. Mais comme ils n'ont pas encore la maturité pour comprendre, pour assimiler, pour s'approprier la pensée des grands auteurs, ce serait de la fausse philosophie. Quand je dis ça, je suis en train de parler d'une représentation. C'est pas ce que je pense. Mais il y a cette représentation-là qui consisterait à dire qu'il y a une discontinuité totale et qu'il faut absolument atteindre l'âge de 16 ans, 17 ans, 18 ans pour commencer vraiment à avoir une pensée noble, une pensée élevée ou ce genre de choses.
Et donc vous n'êtes pas du tout d'accord avec ça ?
Là, non, absolument pas. Mais après, justement, tout le problème, c'est de l'avoir pratiqué, c'est de se lancer. Il y a une certaine appréhension pour des professeurs qui sont cantonnés en terminale. C'est difficile d'essayer de se lancer au collège, d'essayer de se lancer en primaire avec des dispositifs qui ne sont pas les mêmes. Et effectivement, ça suppose de renoncer aux références, ça suppose de renoncer pas mal aux grands auteurs, aux grands systèmes de pensée.
Mais alors, ce qui est étonnant là-dedans, dans cette opinion, on va dire, relativement majoritaire, parce que la philosophie n'est enseignée qu'en terminale, c'est que finalement on a l'impression qu'on privilégie la capacité à absorber et à comprendre les réponses qu'on apporte à des questions plus que la capacité de se questionner, en fait. C'est comme si c'est ça qui était plutôt recherché, où on inculquait un certain nombre de doctrines dans la tête des élèves et finalement leur capacité à se questionner était beaucoup moins intéressante, quoi.
C'est-à-dire que là, par cette question, il y a évidemment, on pourrait lire à travers cette question une opposition entre transmettre des connaissances, bon, des doctrines, des références, et puis d'un autre côté, transmettre ou faire acquérir des compétences qui seraient de l'ordre du questionnement, de l'argumentation, de la problématisation. Mais je crois que c'est un faux débat, en fait, parce que l'un ne va pas sans l'autre, et que si on apprend même à des très jeunes adultes le questionnement, l'argumentation, on ne peut le faire que avec des matériaux, avec une pensée qui a toujours, au fond, une histoire, qui est toujours ancrée. Enfin, les questions philosophiques ne descendent pas du ciel. Elles sont ancrées souvent dans un contexte historique. Voilà, donc je crois que cette opposition, voilà, qu'on fait entre compétences du questionnement d'un côté et connaissances, références, me paraît un peu simpliste.
Oui, les deux sont indissociables pour vous. Et donc justement, à propos de ces contenus, quels sont pour vous, dans votre enseignement de la philosophie, les auteurs et les thématiques incontournables de l'enseignement ? Est-ce qu'il y en a véritablement, ou est-ce que c'est laissé à l'appréciation plus ou moins subjective et au choix de l'enseignant ? J'imagine qu'il y a des programmes quand même.
Il y a un programme, il y a, je ne sais plus si c'est 4000 ou 5000 enseignants de philosophie en France. Et on aura certainement 4000 ou 5000 réponses différentes.
D'accord. Merci beaucoup, ça nous aide bien dans notre émission. Vous avez amené des textes, il y a plein de bouquins sur cette table pour une fois, ça fait plaisir.
Oui.
En général, il n'y a pas grand-chose. Est-ce qu'on peut peut-être justement essayer d'aborder cette question à travers un texte ? Comme ça, on aura une réponse possible au moins. Alors, on vous laisse lire ce texte.
Tentons tout d'abord d'éviter un premier malentendu. Si l'enseignement de la philosophie se donne pour fin, selon la célèbre formule de Kant, le fait que chaque élève ose penser par lui-même, alors aucune méthode d'enseignement, aucun dispositif didactique, aucun procédé pédagogique ne peut prétendre y parvenir de manière mécanique. On ne produit pas l'attitude philosophique. on ne fabrique pas un philosophe. Et si l'on peut fournir à un élève de classe terminale les conseils qui lui permettront d'obtenir une note correcte à l'examen, nul ne peut se prévaloir de la connaissance de ce qui détermine immanquablement un sujet donné à philosopher. Il y aurait une contradiction insupportable à affirmer que l'on détient les moyens de contraindre l'autre à penser par lui-même. L'histoire nous a donné suffisamment d'exemples d'usage tragique ou dérisoire de ce paradoxe pour que dans notre tâche d'éducateur, nous évitions de nous laisser aller à ce genre de facilité. S'il existait un secret qui permette à coup sûr de faire sortir l'individu de la caverne, de le délivrer de ses préjugés, de le faire accéder à la pensée raisonnable, ne craignons rien, cela se saurait. Ou plutôt au contraire, craignons le pire de ceux qui détiendraient un pareil secret. En ce sens, les débats sur l'enseignement de la philosophie ont un immense mérite. Ils nous rappellent que nous ne sommes pas là dans le domaine de la production d'un objet, mais dans celui de la formation d'une personne et de la constitution d'une pensée autonome. Au fond, ce que nous apprennent d'abord les critiques réciproques du cours traditionnel et de la didactique, c'est que rien ni personne n'est ici tout puissant, et que ce qui se joue dans le colloque singulier d'un sujet et d'une pensée philosophique qui lui est présentée est irréductible à toute approche mécaniste. Cela invite, au passage, tous les partenaires du débat à un peu de modestie.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire de quel livre est extrait ce texte et qui en est l'auteur ?
Alors, ce texte est extrait de la préface à un ouvrage qui s'appelle « Apprendre à philosopher dans les lycées d'aujourd'hui ».
D'accord.
C'est un ouvrage collectif où l'on rencontre des auteurs tels que Michel Tozzi, Patrick Baranger, Michel Benoît, Claude Vincent. Et le texte que je viens de lire est la préface écrite par Philippe Mérieux.
D'accord, alors pourquoi avoir choisi ce texte ? Qu'est-ce qui vous semble particulièrement pertinent dans cette approche ?
Ce que je trouve intéressant dans ce texte, c'est de pointer, au fond, une sorte d'injonction paradoxale qui consiste à vouloir que les élèves pensent par eux-mêmes, comme si c'était quelque chose qu'on pouvait contrôler. Maîtriser, produire de façon mécanique, comme le dit Philippe Mérieux. On peut, au mieux, je pense, et encore il faut réfléchir à la manière de le faire, on peut au mieux créer des conditions qui soient favorables, effectivement, à une pensée réflexive, autonome, libre, mais de là à produire mécaniquement un sujet libre de sa pensée, c'est une illusion dont on doit bien se garder.
Quelles seraient ces, pardon, Anaïs, mais quelles seraient ces conditions favorables qu'on pourrait mettre en place pour parvenir à ça ?
Bien, alors là, on entre plus particulièrement effectivement dans la question des pratiques pédagogiques. Alors, il se trouve que, je dirais, il y a une tradition qui est quand même assez forte, assez ancrée dans l'enseignement de la philosophie en France, qui est le cours magistral ou le cours magistral dialogué. C'est un modèle dans lequel le professeur, le sujet censé savoir, transmet à ses élèves sur un modèle, je dirais, vertical, descendant, un certain nombre de... il déroule une pensée, voilà, il déroule une pensée qui est préétabli, j'allais dire, qui existe avant même le moment où le cours prend forme. Et les élèves sont dans une position relativement passive, au fond, c'est-à-dire que voilà, ils prennent des notes, ils écoutent de manière plus ou moins attentive. Quand le cours est dialogué, parfois le dialogue se fait avec deux ou trois élèves, pendant que les autres... écoute ou pense à autre chose. C'est un mode d'enseignement qui ne me paraît pas favorable à ces conditions dont je parlais tout à l'heure. Donc je crois qu'il y a beaucoup d'autres choses à inventer, à pratiquer, sans pour autant rompre totalement avec le cours magistral, car le cours magistral peut faire partie d'un moment dans une séquence, un moment de reprise, de synthèse, voilà. Mais ça ne doit pas être forcément le seul modèle unique. Alors il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et d'abord, mettre les élèves en activité, les mettre en situation de poser des questions, de problématiser une situation. Alors, par exemple, justement, on peut partir d'un extrait de film, on peut partir de représentations qu'ils peuvent avoir à partir d'images, de photographies. On peut faire. Il y a beaucoup de moyens, en fait, pour travailler, par exemple, à partir de leur représentation de telle ou telle notion. Et à partir de là, progressivement, les amener effectivement vers quelque chose de plus conceptuel.
Une femme fumait au seuil d'une boutique, guettant la procession à l'angle de la rue. Main sur la hanche gauche, elle attendait mutique au soleil. Elle semblait par son ombre tenue. C'était un jour d'avril sur le sol en damier. Des vieilles devisaient autour des enfants, couraient après des chats et l'odeur de l'encens montait lourde à la tête et faisait suffoquer. La musique pleurait en agitant ses chaînes, mimait la pénitence des larmes de sang épaisses, lui échappait et courait sur ses flancs, brûlant de ranimer les douleurs anciennes. Les vagues remuaient des histoires lointaines, où des bateaux gavés d'or hantaient l'océan. Et la femme fumait et l'odeur de l'encens montait lourd dans son âme, où cliquetaient des chaînes. Semana Santa, Semana Santa, Semana Santa. Une femme fumait au seuil d'une boutique, guettant la procession à l'angle de la rue. Main sur la hanche gauche, elle attendait mutique au soleil. Elle semblait par son ombre tenue. Une femme fumait au seuil d'une boutique, guettant la procession à l'angle de la rue. Main sur la hanche gauche, elle attendait mutique au soleil. Elle semblait par son ombre tenue.
Dominique à Semana Santa, vous êtes sur Radio Campus Paris, c'est l'heure de C'est Déshabillez-moi.
Déshabillez-moi.
Oui, parce que Déshabillez-moi a commencé déjà depuis au moins un quart d'heure.
une demi-heure. Hein.
Presque une demi-heure. Mmh. Alors on continue cet entretien avec nos deux invités, Bastien Sueur et Guillaume Lequien. Anaïs, je te laisse la parole.
Oui, alors dans cette deuxième partie d'interview, on voulait aborder un peu la question de l'enseignement de la philosophie, des questions sociales aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'on entend beaucoup parler, notamment dans les médias, des difficultés inhérentes au métier d'enseignant, des classes surchargées, des problèmes de comportement des élèves, etc. Donc Bastien Sueur, vous travaillez dans un micro-lycée. Alors est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette structure et nous raconter à quel type de difficultés vous pouvez avoir à faire dans votre exercice professionnel ?
Oui, donc effectivement, je travaille dans un micro-lycée. Donc les micro-lycées, il y en a 5 maintenant dans l'Académie de Paris, Créteil, Versailles. Le premier a été créé donc il y a à peu près 10 ans dans l'Académie de Créteil, à Sénart. Et puis donc le micro-lycée dans lequel je travaille, qui s'appelle le lycée de la Nouvelle Chance, qui est à Cergy. Et le quatrième, alors ce sont des petites structures qui dépendent totalement de l'éducation nationale, qui sont implantées le plus souvent dans des établissements scolaires traditionnels et qui accueillent entre 80 et 100 élèves qui sont ce qu'on appelle des décrocheurs, c'est-à-dire qu'ils ont quitté le système scolaire pendant plus de 6 mois, jusqu'à parfois 1 an, 2 ans, 3 ans, pour des tas de raisons différentes, à la fois personnelles, sociales, familiales, mais aussi scolaires, et qui veulent revenir dans l'école pour passer un bac. Donc on les prend en seconde, en première ou en terminale. À Cergy, nous avons ouvert deux classes, première et terminale. Enfin, on a cinq classes en tout, hein, deux classes de première, trois classes de terminale. Et nous dérogeons à la loi. Ce sont des structures expérimentales, c'est-à-dire que nous avons une liberté pédagogique beaucoup plus grande que dans le système traditionnel, justement pour pouvoir innover, expérimenter et peut-être justement ne pas répéter certaines, reproduire certaines erreurs, certaines causes, je dirais, qui ont pu faire décrocher ces élèves. Et alors, un des dispositifs, une des innovations consiste, ce qui n'est d'ailleurs pas propre aux structures expérimentales, consiste à enseigner la philosophie dès la classe de première, voire dès la classe de seconde. Alors pourquoi ? Parce que, alors déjà, ce sont des jeunes qui sont un peu plus âgés que la moyenne des jeunes qui sont en première ou en terminale. Ils ont en moyenne 19-20 ans, par exemple, en première. L'enseignement de la philosophie, ne répond pas donc à un programme bien défini. Les professeurs sont un peu libres de faire les choses comme ils l'entendent. En tout cas, ça répond vraiment à un besoin chez eux de redonner, de retrouver du sens à ce qu'ils font. Je crois que la philosophie intervient là plutôt, je dirais, comme ce qui va mettre en lien les différentes disciplines, ce qui va aussi créer du lien entre les élèves, parce qu'on va y pratiquer beaucoup le débat en classe, mais sous une forme très organisée. En même temps, ça permet aussi, comme la philosophie a cette image d'une discipline très exigeante sur le plan intellectuel, ça permet aussi à ces jeunes qui sont souvent abîmés, voire humiliés par un système scolaire qui les a malmenés, je dirais, ça permet à ces jeunes de renouer avec eux-mêmes et de retrouver une estime de soi.
D'accord, merci. Et Guillaume Lequin, est-ce que vous pouvez nous parler, vous, de votre enseignement ? Je ne sais pas si vous enseignez dans un lycée général traditionnel.
Oui, dans un lycée général et technologique.
D'accord.
Avec les structures qu'on retrouve à peu près partout, avec des classes assez chargées en général, mm-hmm. et des profils très 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 différents. C'est-à-dire qu'il y a des classes plutôt série L, série S, qui sont en général motivées et aussi qui ont la pression du bac, qui ont la pression justement d'avoir une bonne note à la fin de l'année. Et on a aussi des séries technologiques qui, elles, sont dans le schéma... Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir le bac, mais en tout cas, la philo ne va pas les aider pour ça. Donc la philo est une matière vraiment secondaire, une matière marginale, et ils attendent plutôt ici un espace de liberté. Donc là, on bénéficie d'une certaine façon, il n'y a pas trop de pression par rapport au bac, ils en ont par ailleurs. Mais là, la question plutôt, c'est arriver à les intéresser, arriver à les faire participer, arriver à faire émerger des choses, sans que ce soit justement un cours magistral vertical.
D'accord. Et est-ce que dans votre enseignement, vous êtes confronté justement aux difficultés sociales des élèves, et est-ce que ça a infléchi ou est-ce que ça a influencé d'une certaine manière le type d'enseignement que vous pouvez leur proposer ?
Ça va dépendre des contextes à chaque fois. On a des groupes classes qui permettent globalement de gommer pas mal de différences qu'on aperçoit plutôt à l'extérieur. Les différences sociales, on les aperçoit une fois que les élèves sortent de la classe. Quand ils arrivent dans le groupe classe, ça se gomme un tout petit peu, ça s'efface un tout petit peu. On a une certaine homogénéité, on a aussi un effet de groupe, qui n'est pas forcément positif d'ailleurs, qui fait qu'on peut réussir malgré tout à faire une sorte de parenthèse. L'heure de philo est une sorte de parenthèse, pas forcément dans le sens où elle serait meilleure que les autres cours, hein, mais en tout cas, ce serait une sorte de parenthèse par rapport à leurs difficultés quotidiennes, par rapport à ce qu'ils ressentent à l'extérieur. Ce qui ne les empêche pas d'être... Ça arrive d'avoir des cas particuliers d'élèves qui ont des difficultés sur justement un sujet précis, une question précise qu'on va aborder en cours, qui sortent de la classe pour toutes sortes de raisons, mais ça, c'est partout pareil.
D'accord. Et est-ce que vous, l'un ou l'autre, dans votre enseignement, donc j'imagine que oui, mais est-ce que vous abordez la question de la vie politique, et est-ce que vous vous sentez, en tant qu'enseignant de philosophie, impliqué dans la formation de futurs citoyens ? Est-ce que c'est une dimension importante de votre travail ?
Déjà, à la base, nous avons un cinquième du programme à peu près qui est sur des thèmes politiques. Donc le programme fait qu'il faut faire une formation politique. Et la réaction qu'on a très souvent, je généralise peut-être un peu, hein, la réaction qu'on a très souvent quand même, c'est d'avoir des élèves, quand on leur dit, ben voilà, on va traiter les thèmes politiques, l'État, la société, le droit, la justice, des élèves qui n'ont pas tellement envie de le faire. Des élèves qui pensent qu'on va les sermonner, des élèves qui pensent qu'on va leur répéter finalement ce qu'ils entendent à l'extérieur, soit répéter un discours... très 5e République, respect des institutions, etc. Soit au contraire un discours subversif, etc. Mais à la limite, ils le font déjà à l'extérieur. Ils ont déjà peut-être les moyens de le faire à l'extérieur. Et donc, en général, on a une attitude un peu plus ambivalente sur ce genre de sujet, sur ce genre de problématique politique.
Donc il y aurait une espèce de désinvestissement de cette sphère qui est palpable.
Oui, mais qui est liée aussi à une désillusion générale, qui est liée aussi à un esprit là de l'époque.
Donc qui vient des parents aussi, de toute manière.
Qui est avec une chambre en écho, avec les parents, avec les discussions en dehors, et ainsi de suite. Oui.
D'accord. Et est-ce que vous abordez en général des questions d'actualité avec vos étudiants? Est-ce que vous les intégrez dans, dans les réflexions philosophiques que vous pouvez leur transmettre, auxquelles ils peuvent prendre part également? Ou est-ce que vous vous contentez d'un enseignement purement historique de la philosophie?
L'alternative est curieuse. C'est-à-dire que c'est ni l'un ni l'autre. Justement, c'est pas soit l'actualité, soit l'histoire.
Non, est-ce que vous mêlez des questions d'actualité ou est-ce que vous, surtout, vous n'en parlez pas et vous ne tenez pas compte de votre enseignement?
Alors là, je pense que ça dépend de la sensibilité de chacun. Moi, je sais que je suis assez mal à l'aise sur ce genre de choses en général. Donc, j'ai tendance à attendre que le temps passe, à attendre justement qu'on ait un peu de recul par rapport à tel ou tel événement pour pouvoir en parler sereinement.
Est-ce que les élèves arrivent avec des questions en particulier, hein, où ils vous demandent de, ils vous interrogent sur un sujet particulier, d'actualité ou pas, et ils vous demandent des réponses? Est-ce que ça arrive que ce soit l'élève qui questionne le professeur de temps en temps quand même?
Oui, ça arrive effectivement. Moi, je m'étais mis une sorte de défi il y a 2 ans, où je disais à mes élèves, une fois par semaine, vous pouvez, avant que je rentre dans la salle, écrire au tableau une question à laquelle j'essaierai de donner une réponse argumentée, problématisée. Maintenant que j'en parle, j'ai du mal à me souvenir des questions qu'ils me posaient, mais on passait quand même beaucoup de temps à reformuler, à préciser le sens de la question. Et c'est vrai que souvent, il pouvait y avoir un lien avec l'actualité, mais pas forcément. Et ça peut être quand même assez souvent des questions qui tournaient autour du sens de l'existence, des questions qui n'étaient pas forcément connectées avec l'actualité, avec la réalité.
D'accord.
Quotidienne.
Sachant qu'on a aussi des élèves d'ailleurs au lycée et en terminale qui ne s'intéressent pas tellement à l'actualité.
Oui, l'actualité qui n'est pas la télé forcément. Mais...
Qui ont d'autres références et qui, à la limite, c'est plutôt à nous, quelquefois, de leur rappeler qu'il se passe des choses, justement.
D'accord, oui, c'est assez étonnant parce que du coup, on a l'impression qu'ils vont arriver avec des millions de questions, mais peut-être qu'on le regarde par notre biais à nous, on se dit, si j'avais la chance d'avoir quelqu'un pour répondre à toutes mes questions, qu'est-ce que j'aurais envie de lui demander?
C'est-à-dire que si on les avait préparés, je dirais, s'ils avaient été formés pendant toute leur scolarité à poser des questions ouvertes aux professeurs, des questions que les professeurs donc ne leur auraient pas posées au préalable, dans l'attente d'une réponse précise, ça pourrait arriver plus facilement.
On en revient encore au problème de l'éducation à la française.
C'est ça, exactement. C'est-à-dire que je crois qu'on est face à des classes qui sont un peu tétanisées. Qui n'osent pas poser des questions, qui ont peur, ont peur de paraître bête, idiot. Peut-être davantage encore dans un cours de philosophie où...
On dit qu'il faudrait être intelligent.
Voilà, exactement. Donc je crois que c'est une disposition qu'il faut essayer d'encourager, qu'il faut essayer de faire acquérir aux élèves, mais ça prend du temps en fait, et c'est vrai que sur 6 mois, 10 mois, c'est pas forcément évident.
Pour vous, finalement, le challenge, il est là, dans l'enseignement de la philosophie?
Oui, plutôt, effectivement. Ouais. Plutôt dans la création d'une relation de confiance aussi avec les élèves qui permet des échanges, qui permet au cours de devenir un espace de paroles qui soit le plus constructif possible. When the light won't love you, calling out your insides, voices in the kitchen, tell me that it's all right, no one else here dying, I'm barely sleeping.
Lovers Vacation. Il est 18h et quelques. Vous êtes sur Radio Campus Paris, c'est Déshabillez-moi.
Déshabillez-moi.
Oui, parce qu'on va pas continuer à mentir à nos auditeurs. Nous enregistrons cette émission la veille.
Comment tu nous trahis, Mélanie. Mais
oui, je vous ai trahi. Je voulais donner l'heure comme ça, et puis ça ne fonctionnera pas. Oui. Anaïs Chaise, continue cet entretien.
Oui, alors là, on voulait s'intéresser un peu aux nouvelles manières d'enseigner la philosophie et à l'idée qu'on pourrait utiliser d'autres médias, d'autres disciplines, peut-être pour rendre la philosophie accessible, ou en tout cas pour traiter différemment les informations philosophiques et améliorer la transmission. Alors, est-ce que vous utilisez d'autres choses pour appuyer, étayer votre enseignement philosophique? Alors.
Guillaume Lequin. Oui, à commencer par la vidéo, qui est un très très bon moyen pour mettre en place des expériences de pensée, pour mettre en place des exemples concrets qu'on ne pourrait pas convoquer directement dans la classe. Un exemple que je fais systématiquement chaque année dans toutes mes classes, c'est comment on fait pour réfléchir à la justice si on n'a jamais été dans un tribunal déjà, et si on n'a jamais été mis dans la position d'un juge. On peut faire un discours théorique sur la justice, on peut arriver évidemment bien sûr à avoir un contenu très très général, très abstrait, en se basant sur la pensée des grands auteurs. Mais l'expérience que moi je fais, alors quelquefois quand je peux, j'essaie d'emmener une classe directement dans le tribunal, ce qui pose plein de problèmes techniques, pratiques, etc. Mais ce qui est beaucoup plus simple à la limite, c'est simplement de leur montrer une audience d'un procès et voilà, c'est vous le juge. Vous jouez le rôle du juge, c'est à vous de donner un verdict à la fin.
Par exemple, donc, vous utilisez un film de Depardon.
Oui, voilà, là c'est le documentaire de Depardon qui s'intitule « Dixième chambre », qui juge des affaires pas du tout sensationnelles, des affaires totalement banales de la vie quotidienne. Et il s'agit de voir justement comment le juge lui fait pour établir son verdict, mais on ne connaît pas son verdict, c'est à la classe de le donner.
Alors là, vous utilisez du documentaire. Ouais. Est-ce que il vous arrive aussi d'utiliser de la fiction? Donc ouais. Elle est plutôt dans des œuvres de fiction, cinéma, série télé, ce genre de choses. Comment on part d'une œuvre de fiction pour ensuite essayer de monter à des concepts philosophiques? Je ne sais pas si on dit monter, d'ailleurs, ce n'est pas très, très heureux.
Oui, enfin, articuler, on pourrait dire.
Voilà.
Ouais. Alors, oui, effectivement, j'essaye de temps en temps d'utiliser des œuvres de fiction. Alors, au départ, je montrais des films parfois dans toute leur étendue, dans toute leur longueur, et ça devenait très chronophage et difficile à exploiter. Là, de plus en plus, j'utilise des extraits ou des choix d'extraits. Et en particulier, ces derniers temps, j'utilisais pas mal quelques extraits de Vénus Noire, qui est un film de Abdelatif Kechiche, un film assez éprouvant. Qui permet en fait d'amener les élèves à se poser des questions sur le regard sur l'autre, de l'autre, les figures de l'altérité, le racisme ordinaire, le racisme scientifique aussi, au XIXe siècle en France. Voilà, à partir d'une analyse, je dirais, un peu informelle, un peu sauvage, des images. Je ne fais pas d'analyse filmique au sens traditionnel, universitaire du terme, pour ensuite en dégager un contenu philosophique, mais je leur montre, par exemple, au début du film, un extrait sur la première exhibition de la Vénus Hottentote, donc dans Piccadilly Circus à Londres, avec des réactions du public londonien qui sont filmées parfois en très gros plan, et avec des réactions très diverses et très ambiguës, très ambivalentes. Et les élèves, finalement, par un dispositif que je mets en place, arrivent à s'identifier un peu à ce public, à se dire finalement oui, c'est pas si évident que ça, peut-être que on aurait réagi de la même façon, même si la première réaction est une réaction plutôt de rejet, hein, de dégoût. Voilà, il y a une vraie réflexion qui peut se mettre en place en partant des émotions. C'est-à-dire que l'intérêt, je crois, d'un film de fiction, c'est que, ça existe aussi dans le documentaire, évidemment, mais c'est de provoquer des émotions, et en partant de ces émotions-là, on arrive à impliquer, je dirais, davantage les spectateurs dans le questionnement qui va suivre.
D'ailleurs, Anaïs, tu as amené un petit extrait.
Oui, bah on va écouter un extrait du film Matrix et on en parle juste après.
Alors, rien de tout ça n'est réel ?
Qu'est-ce que le réel ? Quelle est ta définition du réel ? Si tu veux parler de ce que tu peux toucher, de ce que tu peux goûter, de ce que tu peux voir et sentir, alors le réel n'est seulement qu'un signal électrique interprété par ton cerveau. Ça, c'est le monde que tu connais. Le monde tel qu'il était à la fin du XXe siècle. Il n'est plus aujourd'hui qu'une parcelle de la simulation neuro-interactive que nous appelons la matrice. Tu viens d'un monde imaginaire, Néo. Voici le monde tel qu'il existe aujourd'hui. Bienvenue dans le désert du réel. Qu'est-ce que la matrice ? Le contrôle absolu. La matrice est la simulation d'un monde imaginaire, créé dans le seul but de nous maintenir sous contrôle, jusqu'à ce que nous soyons tous transformés en ceci.
Non. Je refuse de le croire. C'est impossible.
Je n'ai pas dit que ce serait facile, Néo. J'ai dit que ce serait la vérité.
Ça suffit! Laisse-moi sortir! Laisse-moi sortir! Je veux sortir!
Je n'ai pas dit que ce serait facile.
Ouais, ce ne sera pas facile. Et donc cet extrait du film Matrix était intitulé, je crois, La Matrice, une figure du Léviathan, enfin en tout cas associé justement à La Matrice, une figure philosophique, donc de Hobbes, du Léviathan. Alors est-ce que le cinéma peut en lui-même être authentiquement philosophique? Ou est-ce qu'il y a un apport à la réflexion philosophique, quelque chose qui illustre, ou est-ce qu'il y a une dynamique en elle-même cinématographique?
Vous avez 4 heures.
Voilà.
C'est compliqué comme sujet. Ça correspond déjà à toute une vague de l'histoire du cinéma qui se présente surtout dans les années 90, de films comme ça qui sont très réflexifs. De films qui essayent de mettre en crise la fonction du narrateur, la vérité de ce qui est énoncé, etc. Et là, on est en plus dans un genre particulier qui est la science-fiction, où on met en place un monde totalement imaginaire qui permet de mettre en abîme d'une certaine façon, justement, notre perception de la réalité. De ce point de vue-là, oui, il y a plein de choses à voir dans ce film. Est-ce que le film est philosophique ? Ça me dérange pas tellement de le dire. Ça me dérange pas tellement de le dire, mais y a, dans ce cas-là, ils le sont quasiment tous à partir du moment où ils construisent un univers comme ça, qui permet de mettre en abîme, donc de rejouer d'une façon peut-être plus abordable, là c'est pas forcément le cas ici, de façon plus abordable justement des questions de la vie quotidienne.
Vous avez apporté un texte à ce sujet ?
Alors c'est pas spécialement sur le sujet de Matrix, mais sur le rapport du spectateur justement par rapport à une fiction, par rapport à un spectacle. Alors là dans mon texte c'est plutôt par rapport au théâtre. Et il y a une comparaison justement avec la posture de l'élève. L'élève, spectateur, le spectateur, élève. Alors je lis. Donc qu'est-ce qui permet de déclarer inactif le spectateur assis à sa place ? Sinon l'opposition radicale préalablement posée entre l'actif et le passif. Pourquoi identifier regard et passivité ? Sinon par la présupposition que regarder veut dire se complaire à l'image et à l'apparence, en ignorant la vérité qui est derrière l'image et la réalité à l'extérieur du théâtre. Pourquoi assimiler écoute et passivité ? Sinon par le préjugé que la parole est le contraire de l'action. Ces oppositions, regarder, savoir, apparence, réalité, activité, passivité, sont tout autre chose que des oppositions logiques entre termes bien définis. Elles définissent proprement un partage du sensible. L'émancipation, elle, commence quand on remet en question l'opposition justement entre regarder et agir, quand on comprend que les évidences qui structurent ainsi les rapports du dire, du voir et du faire appartiennent elles-mêmes à la structure de la domination et de la suggestion. Elle commence quand on comprend que regarder, c'est aussi une action qui confirme ou transforme cette distribution des positions. Le spectateur aussi agit, comme l'élève ou le savant. Il observe, il sélectionne, il compare, il interprète. Il lit ce qu'il voit à bien d'autres choses qu'il a vues sur d'autres scènes, en d'autres sortes de lieux. Il compose son propre poème avec les éléments du poème en face de lui. Elle participe à la performance performance en la refaisant à sa manière, en se dérobant par exemple à l'énergie vitale que celle-ci est censée transmettre pour en faire une pure image et associer cette pure image à une histoire qu'elle a lue ou rêvée, vécue ou inventée. Ils sont à la fois ainsi des spectateurs distants et des interprètes actifs du spectacle qu'il aurait proposé.
Alors, pourquoi avoir choisi donc spécifiquement ce texte ?
Parce que ce texte, alors qui est tiré du Spectateur émancipé de Jacques Rancière, paru en 2008, ce texte a le mérite justement d'interroger, de remettre en question l'opposition justement classique entre le spectateur passif et l'acteur actif, l'acteur, le réalisateur, etc. Hein. Donc l'art qui agirait alors que le spectateur se contenterait simplement de recevoir passivement et ce qui aurait peut-être d'ailleurs des effets d'aliénation sur le spectateur. Et il s'agit de déjouer justement cette opposition un tout petit peu simpliste et montrer d'ailleurs que c'est exactement la même chose qui se passe dans un cours entre l'élève et le, entre guillemets, maître, entre l'élève et l'enseignant. Entre l'enseignant qui lui agit, qui est le seul à vraiment travailler pendant l'heure, qui est le seul à vraiment penser, à la limite, et l'élève qui serait simplement dans une position de réception passive d'une pensée pré-mâchée, pré-établie.
D'accord, donc est-ce que quelque part du coup vous revendiquez aussi dans cette ligne-là le fait que quand on écoute, quand on reçoit quelque chose, on est dans une démarche active et,
voilà. Le principe c'est d'essayer d'arriver à ça, d'essayer à déjouer l'opposition entre la posture magistrale et de l'autre côté la passivité du spectateur, mais essayer de mettre en action les élèves, mettre en action les spectateurs pour qu'ils ne se contentent pas de simplement regarder des images défilées qui sont très agréables, qui permettent un temps de repos, etc. Hein, mais que leur regard soit un regard de remise en question, soit un regard justement interrogateur qui n'est pas le même d'ailleurs que leur voisin. Chacun a son propre regard qui va transformer un tout petit peu leur expérience du spectacle, du film, de la pièce de théâtre, etc.
Est-ce qu'on pourrait dire que si on reconnaît que certains films peuvent être caractérisé comme philosophique, est-ce qu'on peut dire que du coup la philosophie est à même de s'émanciper de la question de l'argumentation ? Parce que est-ce qu'un film argumente réellement comme pourrait le faire un texte ou
Alors c'est pas forcément argumenter, ce serait plutôt problématiser. Le film, au moins, l'extrait de film ou l'extrait de série, etc., a le mérite de poser un problème. Et ensuite, justement, c'est au spectateur d'apporter sa réponse. C'est au spectateur d'accepter les arguments éventuellement qui sont énoncés dans le film ou éventuellement d'apporter ses propres arguments et de critiquer éventuellement les réponses qui sont données dans le film.
Est-ce qu'on doit dépasser et faire fi enfin de la dissertation, cet exercice un peu qui dégoûte pas mal tous les étudiants, d'ailleurs, du lycée jusqu'à la fin de leurs études supérieures. Qu'est-ce qu'il faut faire alors de cette dissertation ?
Alors,
parce qu'on sonne le glas.
Bastien Sueur. Contre la dissertation, c'est ça ? Bon, c'est un peu là encore. Je pense les termes du débat, il faudrait les définir parce que je crois que la dissertation est un exercice qui a quand même un certain nombre de vertus. C'est vrai qu'elle est, il est très très exigeant. Il est et c'est un type d'écrit, voilà, qui est quand même très particulier. Mais en même temps, peut-être que plutôt que d'abolir, je dirais, cet exercice, dans un premier temps, pourquoi pas inventer d'autres types d'exercices qui l'accompagneraient ou qui seraient. Mais alors lesquels et comment est-ce qu'on les élèves seraient amenés à choisir l'un ou l'autre je ne sais pas trop en fait. C'est vrai que c'est. Bon, je botte un peu en touche parce que c'est une question. Oui, je ne sais pas.
C'est aussi un exercice roi, c'est aussi un exercice qui est hérité d'une certaine tradition, qui fait d'ailleurs que la philosophie est quasiment la seule discipline à avoir conservé cet exercice-là, dans les termes où on l'énonce d'habitude. Le problème, et c'est lié d'ailleurs au fait que la philosophie soit enseignée seulement en terminale, c'est qu'on a effectivement 9 mois, 10 mois pour préparer tout le programme et préparer aussi un exercice qui est très complexe, qui a une forme très complexe, qui suppose de savoir problématiser, qui suppose de savoir argumenter, de savoir contre-argumenter, de savoir remettre en question sa propre argumentation. Et déjà, les élèves sont très curieux, sont très volontaires en général quand il s'agit de soutenir leurs idées, à la limite. Mais déjà, critiquer leurs idées, c'est pas facile, de remettre en question sa propre idée. Mais en plus de mettre ça sous une forme tellement lourde, avec tellement de présupposés derrière, qu'en général, ça effraie. Et en général, effectivement, c'est un exercice qui paraît finalement redoutable. Moi, j'aurais tendance à essayer de le simplifier au maximum, déjà simplement faire des essais argumentatifs, une partie, deux parties, éventuellement, si on veut contre-attaquer contre son adversaire, ce genre de choses. Et ce qui est assez pratique aussi dans une situation de classe, c'est de faire jouer les élèves les uns contre les autres. C'est d'essayer de les mettre en situation collective de débat, et ainsi de suite.
distracted. The tug of war begins in our emotion. I am leaving many people feeling worse than before. People like to drive the cars and smoke up. People like to sit inside and talk up. People like to shoot at things with borrowed guns and knives.
Belle and Sébastien, The Party Line, vous êtes sur Radio Campus Paris, on approche de la fin de Déshabillez-moi.
Et vous ?
Déshabillez-vous !
Et donc on termine sur l'entretien psy de nos invités.
Tout à fait. Alors, en général, il n'y a pas deux personnes sur le divan d'un psy. Mais comme ils sont venus, nos invités sont venus à deux aujourd'hui, on va faire avec. Et donc, puisqu'on a décidé de supprimer une partie de mon entretien psy, je ne ferai que deux questions. Donc là, je vais commencer par la question. Je veux savoir pourquoi vous avez choisi de devenir enseignant. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça? Alors, vous allez devoir répondre tous les deux. Ne vous regardez pas d'un air comment répondre à cette question.
Qui commence?
Alors si je commence rapidement, c'est très simple, je n'avais pas de raison. C'est très simple, je sentais une affinité avec, avec le fait d'expliquer des choses aux autres, que ce soit dans n'importe quelle matière, et donc après, le choix était celui de la matière, c'est tout. Donc je ne peux vraiment pas rationaliser mon choix, c'était comme ça.
D'accord.
Alors, moi c'est un peu plus sinueux dans la mesure où je n'avais pas du tout prévu de devenir enseignant.
D'accord. Voilà.
Donc pour le coup, je réponds bien là, à la demande du divan, hein, psy.
Alors dites-nous tout.
Puisque mon objectif au départ, c'était de faire du cinéma.
Ah. D'accord.
Et voilà, après, je ne vais pas vous raconter toute ma vie quand même, ça serait trop long en si peu de temps.
Si, apparemment, notre réalisatrice a très envie.
Mais il se trouve que voilà, j'avais deux passions, le cinéma, la philosophie. Je ne crois pas que je serais devenu enseignant dans une autre discipline que la philosophie, en fait. C'est vraiment, ça a été plutôt pour moi un prolongement voilà, du goût que j'avais pour cette discipline. Je me disais que ne pas la faire partager à d'autres, ça aurait été un manque dans ma formation.
D'accord. Et alors, selon vous, qu'est-ce qu'il y a de pire dans le métier d'enseignant?
Les copies à corriger.
Les copies à corriger, d'accord.
Non, les copies à corriger en grand nombre. C'est surtout le nombre des copies qui est... ce qui est le plus détestable. Les copies en elles-mêmes ne sont pas détestables du tout.
D'accord.
Moi, je dirais que c'est l'isolement.
Aussi.
L'isolement du professeur dans sa classe.
Ouais.
Voilà.
C'est un peu monter sur scène tous les jours, en fait.
Oui.
Surtout monter sur scène en devant se débrouiller tout seul, justement. Mais je te laisse répondre.
Ouais, c'est ça. C'est ça. Devoir se débrouiller tout seul, devoir l'absence de retour. L'absence de retour, aussi bien des élèves, même si le retour, en fait, il est quotidien, si vous voulez, parce qu'on sent bien quand quelque chose fonctionne ou dysfonctionne. Mais bon, c'est pas un retour qui est vraiment cadré, donc on n'en apprend pas forcément quelque chose. L'inspection, quand elle vient dans nos classes une fois tous les 5 ans, de toute façon, on fait pas le même cours que d'habitude, c'est pas... Bon. Non, je crois que là, de ce point de vue-là, il y a des choses à faire. Et c'est d'ailleurs peut-être, si on peut en parler un peu, une des raisons qui nous ont amenés à créer ce collectif Enseigner la philosophie autrement, justement pour permettre à tous les professeurs de philosophie qui expérimentent des choses, de les échanger entre eux, mais de manière justement collaborative, entre pairs, selon mon avis, d'une co-formation. Et pas sur un mode, encore une fois, universitaire, magistral, avec la bonne parole qu'on doit écouter avec déférence. Et
dans ce collectif, on peut accueillir, vous accueillez tous les professeurs de philosophie qui le demanderaient. Comment ça se passe ?
Tous ceux qui le souhaitent, oui, absolument. Tous ceux qui le veulent, ceux qui le souhaitent, ou qui le peuvent, en raison aussi des contraintes de chacun sur le plan... géographique, par exemple, c'est pas forcément évident de se déplacer. Pour le moment, ça se passe plutôt en région parisienne, mais on a des collègues qui viennent du sud de la France, par exemple.
D'accord. Et un site sur lequel on peut vous retrouver ?
Oui, c'est enseigner la philo autrement sur blogspot.com.
Eh bien, super. Merci beaucoup. Merci à vous deux.
Je crois que Guillaume Lequin voulait juste parler d'un festival.
Ah oui, aussi, juste une information qui concerne à la fois la philosophie théorique et aussi la pédagogie. C'est un festival qui s'appelle Eidolon, qui a lieu du 24 au 26 avril, où le cinéma est utilisé, enfin, est vu dans toutes les perspectives philosophiques possibles, avec des films d'élèves, avec des films de professionnels, justement, dans leurs valeurs philosophiques.
Il va très bien mettre un lien sur notre article vers ce festival, comme ça vous pourrez connaître toutes les informations nécessaires. Merci à vous deux, Bastien Sueur et Guillaume Lequin, d'avoir répondu à nos questions et accepté notre invitation.
Merci à vous.
Et merci à Charlène pour la réalisation de cette émission. Merci Anaïs pour l'entretien.
Oui, merci Mélanie.
Et puis nous, on vous donne rendez-vous dans un mois dans un pour mois. Parler science-fiction ouais, et philosophie.
On espère.
Bonne soirée à tous sur Radio Campus
Paris. Bonne soirée.
Thank you.